2 ans de vacances, chapitre 1. La tempête. Un schooner désemparé. Quatre jeunes garçons sur le pont du Sloughi. La misaine en lambeaux. Visite à l'intérieur du yacht. Le mousse à demi étranglé. Une lame par l'arrière. La terre à travers les brumes du matin. Le banc de récif. Pendant la nuit du 9 mars 1860, les nuages, se confondant avec la mer, limitaient à quelques brasses la portée de la vue. Sur cette mer démontée, dont les lames déferlaient en projetant des lueurs livides, un léger bâtiment fuyait presque à sec de toile. C'était un yacht de 100 tonneaux, un schooner, nom que portent les goélettes en Angleterre et en Amérique. Ce schooner se nommait le Sloughi, et vainement eut-on cherché à lire ce nom sur son tableau d'arrière qu'un accident, coup de mer ou collision, avait en partie arraché au-dessous du couronnement. Il était 11 heures du soir. Sous cette latitude, au commencement du mois de mars, les nuits sont courtes encore. Les premières blancheurs du jour ne devaient apparaître que vers 5 heures du matin. Mais les dangers qui menaçaient le Sloughi seraient-ils moins grands lorsque le soleil éclairerait l'espace? Le frêle bâtiment ne resterait-il pas toujours à la merci des lames? Assurément, et l'apaisement de la houle, l'accalmie de la rafale, pouvait seul le sauver du plus affreux des naufrages, celui qui se produit en plein océan, loin de toute terre sur laquelle les survivants trouveraient le salut peut-être. À l'arrière du Sloughi, 3 jeunes garçons, âgés l'un de 14 ans, les 2 autres de 13, plus un mousse d'une douzaine d'années, de race nègre, étaient postés à la roue du gouvernail. Là, ils réunissaient leurs forces pour parer aux embardés qui risquaient de jeter le yacht en travers. Rude besogne, car la roue, tournant malgré eux, aurait pu les lancer par-dessus les bastingages. Et même un peu avant minuit, un tel paquet de mer s'abattit sur le flanc du yacht que ce fut miracle s'il ne fut pas démonté de son gouvernail. Les enfants, qui avaient été renversés du coup, purent se relever presque aussitôt. « Gouverne-t-il, Brian ? » demanda l'un d'eux. « Oui, Gordon, » répondit Brian, qui avait repris sa place et conservait tout son sang-froid. Puis, s'adressant au troisième, « Tiens-toi solidement, Doniphan, » ajouta-t-il, « et ne perdons pas courage, il y en a d'autres que nous à sauver. » Ces quelques phrases avaient été prononcées en anglais, bien que, chez Brian, l'accent dénotât une origine française. Celui-ci, se tournant vers le mousse, « Tu n'es pas blessé, Moko ?»«
Non, monsieur Brian, » répondit le mousse, « surtout, tâchons de maintenir le yacht debout aux lames, ou nous risquerions de couler à pic. »
À ce moment, la porte du capot d'escalier, qui conduisait au salon du schooner, fut vivement ouverte. 2 petites têtes apparurent au niveau du pont, en même temps que la bonne face d'un chien, dont les aboiements se firent entendre.
« Brillant ! Brillant ! » s'écria un enfant de 9 ans. « Qu'est-ce qu'il y a donc ?»«
Rien, Iverson, rien !» répliqua Brillant. « Veux-tu bien redescendre avec Dole ? Et plus vite que ça !»«
C'est que nous avons grand-peur !» ajouta le second enfant, qui était un peu plus jeune.
« Et les autres ?» demanda Doniphan.
« Les autres aussi !» répliqua Dole.
« Voyons, rentrez tous !» répondit Brillant. « Enfermez-vous, cachez-vous sous vos draps, fermez les yeux et vous n'aurez plus peur. Il n'y a pas de danger !»«
Attention, encore une lame !» s'écria Moko.
Un choc violent heurta l'arrière du yacht. Cette fois, la mer n'embarqua pas, heureusement, car si l'eau eût pénétré à l'intérieur par la porte du capot, le yacht, très alourdi, n'aurait pu s'élever à la houle.
« Rentrez donc !» s'écria Gordon. « Rentrez, ou vous aurez affaire à moi !»«
Voyons, rentrez, les petits !» ajouta Brillant d'un ton plus amical.
Les 2 têtes disparurent au moment où un autre garçon, qui venait de se montrer dans l'encadrement du capot, disait
« Tu n'as pas besoin de nous, Brillant ?»«
Non, Baxter, » répondit Brillant. « Cross, Webb, Service, Wilcox et toi, restez avec les petits. À 4, nous suffirons. »
Baxter referma la porte intérieurement.
« Les autres aussi ont peur !» avait dit Dole. Mais il n'y avait donc que des enfants à bord de ce schooner, emporté par l'ouragan?
Oui, rien que des enfants.
Et combien étaient-ils à bord?
15 en comptant Gordon, Brillant, Doniphan et le Mousse.
Dans quelles circonstances s'étaient-ils embarqués?
On le saura bientôt.
Et pas un homme sur le yacht? Pas un capitaine pour le commander? Pas un marin pour donner la main aux manœuvres? Pas un timonier pour gouverner au milieu de cette tempête?
Non, pas un.
Aussi, personne à bord n'eût-il pu dire quelle était la position exacte du Sloogie sur cet océan.
Et quel océan?
Le plus vaste de tous, ce Pacifique, qui s'étend sur 2000 lieues de largeur, depuis les terres de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande jusqu'au littoral du Sud-Amérique.
Qu'était-il donc arrivé? L'équipage du schooner avait-il disparu dans quelque catastrophe?
Des pirates de la Malaisie l'avaient-ils enlevé, ne laissant à bord que de jeunes passagers livrés à eux-mêmes et dont le plus âgé comptait 14 ans à peine?
Un yacht de 100 tonneaux exige, à tout le moins, un capitaine, un maître, 5 ou 6 hommes, et de ce personnel, indispensable pour le manœuvrer, il ne restait plus que le Mousse.
Enfin, d'où venait-il ce schooner? De quels parages australasiens ou de quels archipels de l'Océanie? Et depuis combien de temps? Et pour quelle destination?
À ces questions que tout capitaine aurait faites s'il eût rencontré le Sloogie dans ses mers lointaines, ses enfants sans doute auraient pu répondre.
Mais il n'y avait aucun navire en vue, ni de ces transatlantiques dont les itinéraires se croisent sur les mers océaniennes, ni de ces bâtiments de commerce, à vapeur ou à voile, que l'Europe ou l'Amérique envoient par centaines vers les ports du Pacifique. Et lors même que l'un de ces bâtiments, si puissant par leurs machines ou leurs appareils véliques, se fût trouvé dans ces parages, tout occupé de lutter contre la tempête, il n'aurait pu porter secours au yacht que la mer ballottait comme une épave. Cependant, Brillant et ses camarades veillaient de leur mieux à ce que le schooner n'embardât pas sur un bord ou sur l'autre.
« Que faire ? » dit alors Doniphan.
« Tout ce qui sera possible pour nous sauver, Dieu aidant, » répondit Brillant. Il disait cela, ce jeune garçon, et c'est à peine si l'homme le plus énergique eût pu conserver quelque espoir. En effet, la tempête redoublait de violence. Le vent soufflait en foudre, comme disent les marins, et cette expression n'est que très juste, puisque le Sloogie risquait d'être foudroyé par les coups de rafale. D'ailleurs, depuis 48 heures, à demi désemparé, son grand mât rompu à 4 pieds au-dessus de l'étambré, on avait pu installer une voile de cap qui eût permis de gouverner plus sûrement. Le mât de misaine, décapité de son mât de flèche, tenait bon encore, mais il fallait prévoir le moment où, largué de ses haubans, il s'abattrait sur le pont. À l'avant, les lambeaux du petit foc battaient avec des détonations comparables à celles d'une arme à feu. Pour toute voilure, il ne restait plus que la misaine qui menaçait de se déchirer, car ces jeunes garçons n'avaient pas eu la force d'en prendre le dernier ris pour diminuer sa surface. Si cela arrivait, le schooner ne pourrait plus être maintenu dans le lit du vent, les lames l'aborderaient par le travers, il chavirerait, il coulerait à pic, et ses passagers disparaîtraient avec lui dans l'abîme. Et jusqu'alors, pas une île n'avait été signalée au large. Pas un continent n'était apparu dans l'Est. Se mettre à la côte est une éventualité terrible, et pourtant ses enfants ne l'eussent pas redouté autant que les fureurs de cette interminable mer. Un littoral, quel qu'il fût, avec ses bas-fonds, ses brisants, les formidables coups de houle qui l'assaillent, le ressac dont ses roches sont incessamment battues, ce littoral, croyait-il, c'eût été le salut pour eux, c'eût été la terre ferme, au lieu de cet océan, prêts à s'entr'ouvrir sous leurs pieds. Aussi cherchaient-ils à voir quelque feu sur lequel ils auraient pu mettre le cap. Aucune lueur ne se montrait au milieu de cette profonde nuit. Tout à coup, vers 1 heure du matin, un effroyable déchirement domina les sifflements de la rafale.
« Le mât de misaine est brisé !» s'écria Doniphan. « Non, répondit le Mousse, c'est la voile qui s'est arrachée des ralingues.
Il faut s'en débarrasser, dit Brillant. « Gordon, reste au gouvernail avec Doniphan, et toi, Moko, viens m'aider !»
Si Moko, en sa qualité de Mousse, devait avoir quelques connaissances nautiques, Brillant n'en était pas absolument dépourvu. Pour avoir déjà traversé l'Atlantique et le Pacifique, lorsqu'il était venu d'Europe en Océanie,
il s'était tant soit peu familiarisé avec les manœuvres d'un bâtiment. Cela explique comment les autres jeunes garçons, qui n'y entendaient rien, avaient dû s'en remettre à Moko et à lui, du soin de diriger le schooner. En un instant, Brillant et le Mousse s'étaient hardiment portés vers l'avant du yacht. Pour éviter d'être jetés en travers, il fallait à tout prix se débarrasser de la misaine, qui formait poche dans sa partie inférieure et faisait giter le schooner au point qu'il risquait d'engager. Si cela avait lieu, il ne pourrait plus se relever, à moins que l'on ne coupât le mât de misaine par le pied, après avoir rompu ses haubans métalliques. Et comment les enfants en seraient-ils venus à bout? Dans ces conditions, Brillant et Moko firent preuve d'une adresse remarquable. Bien résolus à garder le plus de toile possible afin de maintenir le sloughi vent arrière tant que durerait la bourrasque, ils parvinrent à larguer la drisse de la vergue qui s'abaissa à 4 ou 5 pieds au-dessus du pont. Les lambeaux de la misaine ayant été détachés au couteau, ses coins inférieurs, saisis par 2 faux bras, furent amarrés au cabillaud des pavois, non sans que les 2 intrépides garçons eussent failli 20 fois être emportés par les lames. Sous cette voilure extrêmement réduite, le schooner put garder la direction qu'il suivait depuis si longtemps déjà. Rien qu'avec sa coque, il donnait assez de prise au vent pour filer avec la rapidité d'un torpilleur. Ce qui importait surtout, c'était qu'il pût se dérober aux lames en fuyant plus rapidement qu'elles, afin de ne pas recevoir quelque mauvais coup de mer par-dessus le couronnement. Cela fait, Brillant et Moko revinrent près de Gordon et de Doniphan afin de les aider à gouverner. En ce moment, la porte du capot s'ouvrit une seconde fois. Un enfant passa sa tête au dehors. C'était Jacques, le frère de Brillant, de 3 ans moins âgé que lui. « Que veux-tu, Jacques ? » lui demanda son frère. « Viens, viens !» répondit Jacques. « Il y a de l'eau jusque dans le salon. »« Est-ce possible ? » s'écria Brillant. Et se précipitant vers le capot, il descendit en toute hâte. Le salon était confusément éclairé par une lampe que le roulis balançait violemment. À sa lueur, on pouvait voir une 10aine d'enfants étendus sur les divans ou sur les couchettes du sloughi. Les plus petits, il y en avait de 8 à 9 ans, serrés les uns contre les autres, étaient en proie à l'épouvante. « Il n'y a pas de danger, leur dit Brillant, qui voulut les rassurer tout d'abord. Nous sommes là, n'ayez pas peur. » Alors, promenant un fanal allumé sur le plancher du salon, il put constater qu'une certaine quantité d'eau courait d'un bord à l'autre du yacht. D'où venait cette eau? Avait-elle été pénétrée par quelque fissure du bordage? C'est ce qu'il s'agissait de reconnaître. En avant du salon se trouvait la grande chambre, puis la salle à manger et le poste de l'équipage. Brillant parcourut ces divers compartiments et il observa que l'eau ne pénétrait ni au-dessus ni au-dessous de la ligne de flottaison. Cette eau, renvoyée à l'arrière par l'acculage du yacht, ne provenait que des paquets de mer embarqués par l'avant, et dont le capot du poste avait laissé une certaine quantité couler à l'intérieur. Donc, aucun danger de ce chef. Brillant rassura ses camarades en repassant à travers le salon, et, un peu moins inquiet, revint prendre sa place au gouvernail. Le schooner, très solidement construit, nouvellement caréné d'une bonne doublure de cuivre, ne faisait point d'eau et devait être en état de résister aux coups de mer. Il était alors 1 heure du matin. À ce moment de la nuit, rendu plus obscur encore par l'épaisseur des nuages, la bourrasque se déchaînait furieusement. Le yacht naviguait comme s'il eût été plongé tout entier en un milieu liquide. Des cris aigus de pétrels déchiraient les airs. De leur apparition, pouvait-on conclure que la terre fût proche? Non, car on les rencontre souvent à plusieurs centaines de lieues des côtes. D'ailleurs, impuissants à lutter contre le courant aérien, ces oiseaux de tempête le suivaient comme le schooner dont aucune force humaine n'aurait pu enrayer la vitesse. 1 heure plus tard, un second déchirement se fit entendre à bord. Ce qui restait de la misaine venait d'être lacéré, et des lambeaux de toile s'éparpillèrent dans l'espace, semblables à d'énormes goélands. « Nous n'avons plus de voile !» s'écria Doniphan, « et il est impossible d'en installer une autre !»« Qu'importe !» répondit Brillant, « sois sûr que nous n'en irons pas moins vite !»« La belle réponse !» répliqua Doniphan, « si c'est là ta manière de manœuvrer !»«
Gare aux lames de l'arrière, dit Moko. Il faut nous attacher solidement ou nous serons emportés.
Le mousse n'avait pas achevé sa phrase que plusieurs tonnes d'eau embarquaient par-dessus le couronnement. Brillant, Doniphan et Gordon furent lancés contre le capot auquel ils parvinrent à se cramponner. Mais le mousse avait disparu avec cette masse qui balaya le sloughi de l'arrière à l'avant, entraînant une partie de la drôme, les deux canots et la yole, bien qu'ils eussent été rentrés en dedans, plus quelques espars, ainsi que l'habitacle de la boussole. Toutefois, les pavoises ayant été défoncées du coup, l'eau put s'écouler rapidement, ce qui sauva le yacht du danger de sombrer sous cette énorme surcharge.
« Moko ! Moko !» s'était écrié Brillant dès qu'il fut en état de parler. « Est-ce qu'il a été jeté à la mer ?» répondit Doniphan. « Non, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, » dit Gordon, qui venait de se pencher au-dessus du bord. « Il faut le sauver, lui envoyer une bouée, des cordes !» répondit Brillant. Et d'une voix qui retentit fortement pendant quelques secondes d'accalmie, il cria de nouveau. « Moko ! Moko !
À moi ! À moi !» répondit le mousse.
« Il n'est pas à la mer, » dit Gordon. « Sa voix vient de l'avant du schooner. »«
Je le sauverai, » s'écria Brillant.
Et le voilà qui se met à ramper sur le pont, évitant de son mieux le choc des poulies, balançait au bout des manœuvres à demi larguées, se garant des chutes que le roulis rendait presque inévitables sur ce pont glissant. La voix du mousse traversa encore une fois l'espace, puis tout se tut. Cependant, au prix des plus grands efforts, Brillant était parvenu à atteindre le capot du poste. Il appela. Aucune réponse. Moko avait-il donc été enlevé par un nouveau coup de mer depuis qu'il avait jeté son dernier cri? En ce cas, le malheureux enfant devait être loin maintenant, bien loin au vent, car la houle n'aurait pu le transporter avec une vitesse égale à celle du schooner. Et alors il était perdu? Non, un cri plus faible arriva jusqu'à Brillant, qui se précipita vers le guindeau dans le montant duquel s'encastrait le pied du Beaupré. Là, ses mains rencontrèrent un corps qui se débattait. C'était le mousse, engagé dans l'angle que formaient les pavois en se rejoignant à la proue. Une drisse, que ses efforts tendaient de plus en plus, le serrait à la gorge. Après avoir été retenu par cette drisse, au moment où l'énorme lame allait l'emporter, devait-il ensuite périr par strangulation? Brillant ouvrit son couteau, et non sans peine, parvint à couper le cordage qui retenait le mousse. Moko fut alors ramené à l'arrière, et dès qu'il eut retrouvé la force de parler, « Merci, monsieur Brillant, merci » dit-il. Il reprit sa place au gouvernail, et tous quatre s'amarrèrent, afin de résister aux lames énormes qui se dressaient au vent du sloughi. Contrairement à ce qu'avait cru Brillant, la vitesse du yacht avait quelque peu diminué, depuis qu'il ne restait plus rien de la misaine, ce qui constituait un nouveau danger. En effet, les lames, courant plus vite que lui, pouvaient l'assaillir par l'arrière et l'emplir. Mais qu'y faire? Il eût été impossible de gréer le moindre bout de voilure. Dans l'hémisphère austral, le mois de mars correspond au mois de septembre de l'hémisphère boréal et les nuits n'ont plus qu'une durée moyenne. Or, comme il était environ 4 heures du matin, l'horizon ne devait pas tarder à blanchir dans l'est, c'est-à-dire au-dessus de cette partie de l'océan vers laquelle la tempête traînait le sloughi. Peut-être, avec le jour naissant, la rafale perdrait-elle de sa violence. Peut-être aussi une terre serait-elle en vue, et le sort de cet équipage d'enfants se déciderait-il en quelques minutes? On le verrait bien, quand l'aube teinterait les lointains du ciel. Vers 4 heures et demie, quelques lueurs diffuses se glissèrent jusqu'au zénith. Par malheur, les brumes limitaient encore le rayon de vue à moins d'un quart de mille. On sentait que les nuages passaient avec une vitesse effrayante. L'ouragan n'avait rien perdu de sa force, et au large, la mer disparaissait sous l'écume d'une houle déferlante. Le schooner, tantôt enlevé sur une crête de lame, tantôt précipité au fond d'un gouffre, eût 20 fois chaviré s'il eût été pris en travers. Les 4 jeunes garçons regardaient ce chaos de flots échevelés. Ils sentaient bien que, si l'accalmie tardait à se faire, leur situation serait désespérée. Jamais le sloughi ne résisterait 24 heures de plus au paquet de mer qui finirait par défoncer les capots. Ce fut alors que Moko cria « Terre ! Terre !» À travers une déchirure des brumes, le mousse croyait avoir aperçu les contours d'une côte vers l'est.
Ne se trompait-il pas? Rien de plus difficile à reconnaître que ces vagues linéaments qui se confondent si aisément avec les volutes des nuages.
Une terre? Avait répondu Brillant.
Oui, reprit Moko, une terre, à l'est.
Et il indiquait un point de l'horizon que cachait maintenant l'amas des vapeurs.
Tu es sûr? Demanda Doniphan.
Oui, oui, certainement, répondit le mousse. Si le brouillard se déchire encore, regardez bien.
Là-bas, un peu à droite du mât de misaine. Tenez, tenez.
Les brumes, qui venaient de s'entr'ouvrir, commençaient à se dégager de la mer pour remonter vers de plus hautes zones. Quelques instants après, l'océan reparut sur un espace de plusieurs milles en avant du yacht.
Oui, la terre, c'est bien la terre, s'écria Brillant.
Et une terre très basse, ajouta Gordon, qui venait d'observer plus attentivement le littoral signalé.
Il n'y avait plus à douter cette fois. Une terre, continent ou île, se dessinait à 5 ou 6 milles, dans un large segment de l'horizon.
Avec la direction qu'il suivait, et dont la bourrasque ne lui permettait pas de s'écarter, le Sloughi ne pouvait manquer d'y être jeté en moins d'une heure. Qu'il y fût brisé, surtout si des brisants l'arrêtaient avant qu'il eût atteint la franche terre, cela était à craindre. Mais ces jeunes garçons n'y songeaient même pas. Dans cette terre, qui s'offrait inopinément à leur regard, ils ne voyaient, ils ne pouvaient voir que le salut. En ce moment, le vent se mit à souffler avec plus de rage. Le Sloughi, emporté comme une plume, se précipita vers la côte, qui se découpait avec la netteté d'un trait à l'encre sur le fond blanchâtre du ciel. À l'arrière-plan s'élevait une falaise dont la hauteur ne devait pas dépasser 150 à 200 pieds. En avant s'étendait une grève jaunâtre, encadrée vers la droite de masses arrondies qui semblaient appartenir à une forêt de l'intérieur. Ah, si le Sloughi pouvait atteindre cette plage sablonneuse sans rencontrer un banc de récifs, si l'embouchure d'une rivière lui offrait refuge, peut-être ces jeunes passagers s'en réchapperaient-ils sains et saufs. Tandis que Doniphan, Gordon et Moko restaient à la barre, Brillant s'était porté à l'avant et regardait la terre qui se rapprochait à vue d'œil, tant la vitesse était considérable. Mais en vain cherchait-il quelque place où le yacht pourrait faire côte dans des conditions plus favorables. On ne voyait ni une embouchure de rivière ou de ruisseau, ni même une bande de sable sur laquelle il eût été possible de s'échouer d'un seul coup. En effet, en deçà de la grève se développait une rangée de brisants dont les têtes noires émergeaient des ondulations de la houle et que battait sans relâche un monstrueux ressac. Là, au premier choc, le Sloughi serait mis en pièces. Brillant eut alors la pensée que mieux valait avoir tous ses camarades sur le pont au moment où se produirait l'échouage, et ouvrant la porte du capot, « En haut, tout le monde » cria-t-il. Aussitôt le chien de s'élancer au dehors, suivi d'une dizaine d'enfants qui se traînèrent à l'arrière du yacht. Les plus petits, à la vue des lames que le bas-fond rendait plus redoutables, poussèrent des cris d'épouvante. Un peu avant 6 heures du matin, le Sloughi était arrivé à la corde des brisants. « Tenez-vous bien, tenez-vous bien !» cria Brillant. Et à demi dépouillé de ses vêtements, il se tint prêt à porter secours à ceux que le ressac entraînerait, car certainement le yacht allait être roulé sur les récifs. Soudain, une première secousse se fit sentir. Le Sloughi venait de talonner par l'arrière. Mais bien que toute sa coque en eût été ébranlée, l'eau ne pénétra pas à travers le bordage. Soulevé par une seconde lame, il fut porté d'une 50aine de pieds en avant, sans même avoir effleuré les roches dont les pointes perçaient en 1000 places. Puis, incliné sur le bâbord, il demeura immobile au milieu des bouillonnements du ressac. S'il n'était plus en pleine mer, il était encore à 1/4 de mille de la grève.